EPRA, EPRA.
Père fidèle qui est la plus éloignée de nous.
Le recrutement de travailleurs destinés aux usines d'armement.
Parce que si on allait chez nous, on travaille un jour, on gagnait 12,50 €. Et si on demande à molester, on gagnait 10 €.
Sur lui, il y a une procédure d'expulsion qui est en cours.
Un objectif de reconduite à la frontière pour les clandestins augmenté encore de 50%.
EPRA, EPRA, échange de production radiophonique.
Chaque personne doit passer un test.
Émission de reportage.
J'ai rencontré quelques pathologies assez rares qui n'existent pratiquement pas en France.
On se rend compte qu'il y a quand même quelque chose d'étrange au fait qu'on n'en parle pas.
Sur Divergence FM 93.9.
Bonjour, l'EPRA, pour résumer, c'est une banque de programmes radiophoniques alimentée par certaines radios associatives partout en France et RFI Radio France Internationale. Alors Divergence FM propose ses programmes dans des thématiques précises, lutte contre les discriminations, contre le racisme, portraits d'artistes qui œuvrent pour la diversité culturelle ou encore eh bien, des reportages sur la politique de la ville. Alors dans cette émission, vous écoutez les reportages que nous envoyons à l'EPRA et qui sont ensuite diffusés partout en France, ainsi que les reportages envoyés par d'autres radios adhérentes au réseau, mais aujourd'hui, eh bien, il y aura deux productions. Divergence FM, deux sujets bien différents. Alors tout d'abord, un sujet sur l'APIEU, l'atelier permanent d'initiation à l'environnement urbain, voilà, c'est dit. Une association créée en 1984 à Montpellier et qui propose des animations dans les quartiers. Alors principalement pour les jeunes, et ces actions sont la plupart du temps basées sur le volontariat.
Le plus qui va être amené par l'association, ça va être de tisser des liens entre ces différentes associations, de tisser des liens avec les jeunes, en prenant en compte quelles sont leurs envies, et puis surtout en s'adaptant à la façon dont ils ont de fonctionner. C'est-à-dire que si on va arriver en retard le matin par rapport à une animation que l'on a prévue, eh ben, ça ne va pas être forcément tout de suite de les exclure en disant ben voilà, t'as raté tel jour pour l'animation, mais au contraire de comprendre qu'est-ce qui a amené à ce qu'il ne soit pas venu, parce qu'il peut y avoir plein d'autres paramètres au niveau de la famille qui fait que ben voilà, il n'a pas pu être présent telle matinée, alors qu'on sait pertinemment que ben, il est intéressé par rapport à l'activité et que c'est lui qui a proposé éventuellement de la faire.
Le deuxième sujet sera un peu d'actualité et concernera la programmation du festival Arabesque qui se déroulera ce week-end au Domaine d'Eau. Alors c'est une manifestation tournée vers la musique arabe et au programme, enfin arabe et plus largement maghrébine, puisque au programme ce samedi, eh bien, le chanteur Kabil Idir que j'avais rencontré en 2006 à Toulouse.
Le hasard a fait que mon affectation a été faite dans un lycée qui était en face d'une radio. Cette radio qu'on écoutait là-bas, des gens qu'on mythifiait dans nos têtes, je les voyais comme ça. Et comme on était interne, le week-end, on restait au lycée, on n'avait pas où aller, donc on prenait des guitares et peut-être eu quelques notes qui ont intéressé les gens d'en face. Et donc on me demandait à faire des choses. Et puis donc je me suis essayé à faire des petites musiques pour des chanteurs, sans me prendre comme ça au jeu, hein, par plaisir. Et puis il s'est avéré que ça commençait à marchoter un peu, quoi. On faisait des petits tubes.
Voilà, modestie, beaucoup de modestie pour y dire. Par ailleurs, quelqu'un de très doux, vous l'écouterez, vous écouterez sa voix et vous écouterez aussi son chant, qui n'est pas mal non plus. Voilà, c'est l'émission EPRA, c'est Divergence FM, ce sont des reportages, des entretiens, mais aussi de la musique.
Before I feel kicks in.
Petit flanger qui va bien, c'était un morceau live de Calexico, ça change un peu et c'est aussi une autre version de ce qu'ils peuvent faire puisque c'est plutôt d'habitude l'ambiance mexicaine. C'était Lost in Space, premier morceau de cette émission EPRA qui concerne plutôt eh bien, des entretiens et des reportages. Le premier reportage, eh bien, ça va être sur l'Apieu. Alors mieux comprendre le fonctionnement de l'espace urbain, ses interrelations et ses réseaux, son habitat et son architecture, ce sont les buts de l'Apieu, atelier permanent d'initiation à l'environnement urbain. C'est une association donc créée en 1984 à Montpellier. Alors une grande partie de ces actions sont financées par différents partenaires via le CUCS, le contrat urbain de cohésion sociale. Alors dans cette émission, eh bien, Fabrice Cuny, directeur de l'Apieu, va nous parler des actions engagées dans les quartiers sensibles ou non, tels que l'éducation à l'environnement sonore, les pédibus, qui est un dispositif incitant les parents ou des retraités à accompagner des groupes d'élèves à pied plutôt que sur un court trajet en voiture, puisque c'est à ce moment-là eh bien, qu'on fait le plus de pollution, ou encore des actions qui concernent la gestion des déchets. Alors l'Apieu, via ses ateliers, peut intervenir soit en concertation avec un enseignant dans le cadre d'un projet pédagogique, soit en dehors des établissements scolaires. Alors une des forces de l'Apieu semble être sa longue présence dans les quartiers où elle propose ses ateliers. Alors si dans une prochaine émission nous suivrons des actions concrètes menées par l'Apieu, aujourd'hui, avec son directeur, nous prenons le temps de faire connaissance avec les ateliers qu'elle propose. Et puis après, eh bien, on se retrouvera avec un sujet un peu plus léger. Et ce sera Idir.
Alors bonjour, je m'appelle Fabrice Cuny. Je suis directeur de l'Apieu, l'atelier permanent d'initiation à l'environnement urbain de Montpellier. Et donc c'est une structure associative qui travaille essentiellement sur l'éducation à l'environnement, spécifiquement sur le milieu urbain.
Alors c'est une association qui existe depuis combien de temps ?
Alors l'association a été créée en 1984 et c'est une structure qui d'ailleurs au départ a été impulsée dans le cadre du ministère de la ville qui venait d'apparaître au niveau national. Et il y a eu une première initiative qui a été de créer ce qu'on appelait les ateliers, donc les APU, ateliers permanents d'initiation à l'environnement urbain, avec pour objectif justement de commencer à investir un peu plus le milieu urbain, puisqu'on a de plus en plus de personnes qui commençaient à habiter la ville. Et c'était aussi le début de l'émergence des questions de politique et de cohérence des aménagements au sein de la ville. Donc l'association a été créée donc en 84 et on a été labellisé après CPIE, Centre Permanent d'Initiation à l'Environnement, à partir de l'année 2000. Donc du coup l'association s'est développée un peu autour de ces thématiques-là, avec une professionnalisation qui l'a accompagnée. Et donc maintenant il y a une équipe de 11 salariés qui interviennent principalement dans le domaine de l'éducation à l'environnement. Donc ce sont des animateurs qui sont aussi des formateurs et des éducateurs, et qui vont intervenir sur tous les champs qui vont concerner l'environnement. Donc aussi bien sur le thème des déchets, de l'eau, de l'énergie, de la nature qui est présente dans la ville, la biodiversité, et également aussi l'environnement sonore. Ça, c'est une particularité qui a été développée par l'association. Et aussi tout ce qui est thème de la mobilité, puisque si on a bien une spécificité liée à la ville, c'est la question de la mobilité, la complémentarité des différents modes de transport qu'on utilise, et puis surtout la vraie question de la place de la voiture dans la ville, hein, puisqu'on a aménagé pendant des années les villes pour y laisser circuler les voitures, et on s'aperçoit maintenant que pour des questions d'énergie, de coûts et de pollution, on a tout intérêt à développer d'autres modes de transport.
Pour cette partie éducation, là, si on prend cet exemple de la voiture, comment ça se passe? Comment ça se traduit dans les ateliers et dans ce que vous transmettez à votre public?
Alors, par exemple, sur le thème de la mobilité, on travaille avec des écoles et aussi avec des collèges sur un projet qui s'appelle SAM, Sécurité, Aménagement et Mobilité, du coup, qui permet de faire un peu un diagnostic pour voir comment les élèves se déplacent pour venir à leur établissement. Et puis de là aussi, de pouvoir faire un peu un diagnostic de quels sont les points noirs, quelles sont les choses qui pourraient être améliorées en matière d'aménagement du territoire pour faciliter la circulation à vélo ou la circulation à pied. On a également aussi une autre opération qui s'appelle Carapate, donc qui est ce qu'on appelle les pédibus scolaires. Et là, donc, on fait un accompagnement auprès des parents d'élèves qui sont partants pour accompagner leurs enfants à pied à l'école et diminuer ainsi le nombre de véhicules qui vont être à proximité de l'école à l'entrée et à la sortie des cours. Et donc là, c'est vraiment un système d'entraide solidaire entre les parents et ça permet du coup de renouer aussi en termes de lien social entre les parents, entre les enfants également, et puis surtout de limiter le nombre de voitures qui vont faire des petits déplacements sur des petits trajets, puisque à peu près la moitié des déplacements que l'on fait avec sa voiture font moins de 2 km. Et malheureusement, c'est sur ces 2 km-là qu'il y a le plus de pollution aussi qui est émise et plus de consommation. Donc on a tout intérêt à minimiser l'utilisation de sa voiture dès qu'on fait un déplacement qui fait moins de 2 km. Et donc ça, ce dispositif-là, Carapate, permet entre autres de diminuer l'utilisation de la voiture.
Ce pédibus, effectivement, ça, on commence à en parler depuis quelques années. Hein, on voit quelques reportages dans les médias. Alors ça concerne combien de personnes finalement et combien de quartiers à Montpellier? Et quelle est la réception finalement de cette action?
Alors sur Montpellier, il y a à peu près une dizaine de pédibus, enfin de carapates qui fonctionnent. À chaque fois, pour chacune des lignes, il y a à peu près une dizaine de parents qui sont impliqués. Et puis également à peu près entre 10 et 15 enfants qui du coup utilisent ce mode-là. Mais c'est vrai que sur leur mise en œuvre, elle est des fois plus facile sur des milieux un peu périurbains où la densité était un peu moins forte, car quand on est dans l'hypercentre, dans le centre très dense, là déjà les gens ont déjà l'habitude effectivement d'amener leurs enfants à pied sans forcément créer des lignes en tant que telles. Donc du coup c'est vrai que c'est un système qui est intéressant par rapport à ce milieu un peu périphérique, mais il y a encore tout un travail à faire en matière de sensibilisation, puisqu'il y a aussi toute une série de freins plus psychologiques que les parents vont avoir sur le fait de laisser leur enfant à quelqu'un d'autre, sur les questions aussi de sécurité, aussi de responsabilité. Et donc c'est là aussi où on intervient pour expliciter un peu ces éléments-là et lever tous les freins psychologiques qu'il peut avoir à faire autrement, puisque c'est vrai que le changement de comportement, c'est le travail le plus important en matière d'éducation à l'environnement, et c'est là-dessus où on intervient le plus pour susciter et développer. Donc c'est vrai qu'on en parle, mais en même temps, dans les faits, je pense qu'il y a encore beaucoup plus de potentiel pour mettre en œuvre d'autres carapates sur la ville de Montpellier.
Vous avez un rôle finalement d'impulseur, hein, enfin d'action. Alors, est-ce que vous reprenez, par exemple, si on reste hein, sur cet exemple du pédibus ou carapate, comme vous l'appelez, est-ce que chaque année vous allez reconduire cette action ou est-ce que bien vous faites un entraînement et à ce moment-là, après, vous ne vous en occupez plus et c'est les parents justement qui se mettent ensemble, qui se disent ce qu'on a fait l'an dernier, on va le refaire cette année.
Alors, notre fonction dans le cadre des carapates, c'est bien d'accompagner les parents pour impulser la démarche et les aider à mettre en place les premières lignes. Alors, par contre, ce dont on s'est aperçu, c'est que généralement, ce qui se passe, c'est que au bout de 2-3 ans, quand les parents n'ont plus leurs enfants qui sont dans l'établissement, du coup, ils font plus l'accompagnement à pied, et généralement, c'est là où le carapate s'arrête. Donc, c'est là où on est en phase de réflexion à l'heure actuelle pour être pas seulement comme lieu ressource pour aider à impulser, mais petit à petit aussi essayer d'amener une dynamique d'animation et de coordination, et en particulier, par exemple, amener peut-être plus d'activités ou d'animation ou de sensibilisation avant qu'un carapace s'arrête, simplement parce que les parents vont, parce que leurs enfants vont quitter l'établissement. Et donc, du coup, là, c'est vrai qu'on est en train de réfléchir et on est un peu en phase de mutation. L'autre élément aussi qui évolue par rapport au dispositif du carapace, c'est que jusqu'à présent, c'était des parents qui nous sollicitaient, qui avaient pris la connaissance, donc déjà très sensibilisés ou très motivés. Et maintenant, on est de plus en plus sollicités par les collectivités qui souhaitent décliner, par exemple, des démarches d'agenda 21 ou des plans de déplacement urbain, et dans lesquels s'intègre effectivement ce type de dispositif. Et là, on est plus dans un système inverse, où c'est la collectivité qui souhaite impulser. Donc du coup, ça amène aussi à faire plus de pédagogie et de sensibilisation à destination des élèves, mais aussi à destination des parents, pour dire, ben voilà, ce dispositif-là existe, il est possible de le mettre en place, et voyons comment, collectivement, on peut effectivement impulser la mise en œuvre d'un carapace sur telle ou telle école.
Alors, si on continue sur cet exemple du carapace, vous l'avez pris où, cette idée, finalement? Comment vous avez eu l'idée de le mettre en place? Est-ce que c'est déjà des actions que vous aviez vues par ailleurs? Est-ce que c'est une réflexion propre à vous?
Alors, ce n'est pas une réflexion propre à la PIEU. Les carapaces et pédibus existent depuis plusieurs années. Les premiers ont commencé plutôt dans les pays du Nord, ce qui amène toujours d'ailleurs à dire à des parents qui hésitent à le mettre en place en disant « mais quand il pleut, comment on fait ?» Bon, ben voilà, les premiers carapaces et les premiers pédibus se sont mis en place sur les pays nordiques où le climat est quand même un peu moins clément que sur Montpellier. Et donc, du coup, ça a été mis en place déjà depuis à peu près une dizaine d'années, et les premières initiatives ont eu lieu sur le département de l'Hérault à partir de 2004, en particulier sur le secteur de Jacou. Et petit à petit, ben, c'est là où ça a commencé à faire un peu boule de neige. Et donc, on a un soutien de l'ADEME et du conseil régional pour animer du coup ce dispositif. Donc depuis 2004, la PIEU est identifiée comme lieu ressource pour impulser et mettre en place ce dispositif. Alors du coup, au fur et à mesure aussi, on commence à bénéficier des expériences des uns et des autres. Donc on a toute une méthodologie, mais après on laisse vraiment libre auprès des groupes de parents de savoir comment ils vont s'organiser au quotidien, est-ce qu'ils vont créer une association spécifique ou pas, ou se rattacher à l'association des parents d'élèves, est-ce que ils vont faire une ligne qui va fonctionner tous les jours, ou peut-être simplement deux jours dans la semaine. C'est vraiment libre en matière d'implication et de mode de fonctionnement, parce que c'est basé effectivement sur la volonté des parents. Et c'est vrai que sur certaines expériences, par exemple, il y a un des carapaces qui fonctionne avec un groupe de retraités. Et ce sont des retraités qui n'ont pas forcément leurs petits-enfants qui vont à l'école, mais qui habitent le quartier. Et donc c'est là où aussi on trouve un intérêt par rapport à ce qu'est le lien social, et redonner aussi une utilité du coup aux personnes retraitées qui ont là l'occasion de s'impliquer concrètement dans la vie du quartier, et en même temps du coup de permettre de lutter contre le changement climatique, et puis aussi du coup de faciliter la vie des parents qui souvent ont des timings qui sont relativement serrés pour dire d'aller au travail, qui vont même malheureusement peut-être subir une période de bouchons ou d'embouteillage par rapport à leur activité professionnelle.
C'est une action particulière qui touche donc essentiellement donc des élèves, et puis là vous venez de le dire, donc aussi des parents et puis des personnes âgées, donc une espèce de lien transgénérationnel. Est-ce qu'on peut donner d'autres actions très très concrètes qui sont liées à votre activité, donc environnement urbain?
Alors après, on a effectivement aussi d'autres animations que l'on fait avec les écoles, avec les classes, qui sont sur par exemple la thématique sur la gestion des déchets. Et donc du coup, là, on fait de la sensibilisation auprès des enfants sur la question du tri des déchets. On aborde aussi le thème du cycle de vie des matières. Et donc ça amène aussi un plus en matière de compréhension sur pourquoi est-ce qu'on demande de trier, enfin quel est l'objectif du geste de tri. Et du coup, généralement, ce sont après les enfants qui deviennent eux-mêmes ambassadeurs auprès de leurs parents sur les habitudes à prendre, sur la compréhension aussi de toute la problématique sur la gestion des déchets. Et donc là aussi, on a du coup une interpellation, une action concrète de sensibilisation et de changement de comportement. Sachant que c'est vrai qu'on a, avec le public scolaire, l'avantage d'avoir avoir aussi en même temps des enfants qui sont très réceptifs à ces animations, à ces activités, et qui vont plus facilement changer de comportement. Ce qui est plus difficile finalement pour les adultes, où ben, on est un peu ancré dans des habitudes et où c'est parfois un peu plus long ou un peu plus difficile de changer une habitude que l'on a, alors qu'effectivement avec les jeunes et avec les scolaires, ben, dès le départ, là on a un apprentissage et qui se fait dans une cohérence d'ensemble.
C'est bien qu'il y ait une différence aussi hein, parmi les élèves selon qu'ils sont dans un établissement où les choses sont pacifiées. Après, vous êtes présent dans différents quartiers. Il y a des quartiers qui sont plutôt tranquilles, où il y a une espèce de relative tranquillité. Et puis, il y a des quartiers un peu plus rudes. Quelles sont les actions que vous faites particulièrement envers les quartiers dits difficiles ?
Dans les différents quartiers, selon effectivement qu'on est sur des quartiers plus ou moins faciles, ou plus ou moins difficile, ça dépend toujours comment on se positionne. C'est vrai qu'avec les interventions qu'on fait en classe, en fonction de la turbulence de la classe, on va peut-être du coup privilégier plutôt des actions qui vont alterner avec des activités ludiques en extérieur et des activités en classe, de manière à pouvoir canaliser un peu l'énergie des élèves. Parce que généralement, ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est une question finalement de canalisation des énergies et des envies que les jeunes peuvent avoir. Et ensuite, on a mis en place aussi après un dispositif spécifique au niveau de l'APIE, qu'on appelle le dispositif club de ville. Et donc là, on va intervenir pas dans le temps scolaire, mais dans le temps périscolaire, donc en dehors des heures de cours et même pendant les périodes de vacances, que ce soit les petites vacances ou les grandes vacances d'été. Et donc dans le cadre de l'opération Club de Ville, on intervient particulièrement avec une animatrice qui est Mercedes Galindo sur le secteur de Croix d'Argent, Cité Gilly et Petit Bar. Et là, dans ce cadre-là, on va faire quelque chose d'assez différent par le biais des clubs de ville, parce que on va vraiment partir sur une démarche volontaire de la part des jeunes. Et ben, on va carrément, j'irai aller les prendre par la main dans la rue, lorsqu'ils ont finalement des fois peu d'offres en matière d'activité, puisque finalement, généralement, sur ce type de quartier, ce qui manque, c'est des propositions en matière d'animation et d'activité. Et donc là, du coup, ça va être sur une démarche volontaire où, avec les jeunes, on va leur proposer des activités, mais ces activités, c'est eux-mêmes qui vont commencer à les bâtir petit à petit. Plutôt que d'arriver avec quelque chose de tout fait, de clé en main, qu'on impose, finalement, là, c'est vraiment partir, finalement, des envies et des attentes qui peuvent être sur le terrain. Et donc, du coup, il y a tout ce travail qui est fait en lien avec des associations locales qui sont déjà présentes, mais où le plus qui va être amené par l'association, ça va être de tisser des liens entre ces différentes associations, de tisser des liens avec les jeunes, en prenant en compte quelles sont leurs envies, et puis surtout en s'adaptant à la façon dont ils ont de fonctionner. C'est-à-dire que si on va arriver en retard le matin par rapport à une animation que l'on a prévue, eh ben, ça ne va pas être forcément tout de suite de les exclure en disant, ben voilà, t'as raté tel jour pour l'animation, mais au contraire, de comprendre qu'est-ce qui a amené à ce qu'il ne soit pas venu, parce qu'il peut y avoir plein d'autres paramètres au niveau de la famille qui fait que, ben voilà, il n'a pas pu être présent telle matinée, alors qu'on sait pertinemment que, ben, il est intéressé par rapport à l'activité et que c'est lui qui a proposé éventuellement de la faire. Donc c'est vrai qu'il y a un travail presque de précision qui est fait avec chacun des jeunes par rapport à ses envies, et puis monter petit à petit effectivement des projets d'ensemble sur lesquels on va impliquer les autres partenaires. Et c'est aussi tout un travail aussi de tissage par rapport à des dispositifs qui peuvent exister dont ils n'ont pas forcément connaissance, où ça leur paraît vraiment trop éloigné ou trop abstrait de se dire, bah oui, tiens, c'est vrai que par rapport à mon envie, je pourrais m'inscrire dans ce projet-là, mais il faut que je l'écrive. Et puis, bah, du coup, on va faire aussi un accompagnement sur la façon d'écrire son projet. Donc, on fait des accompagnements, en tout cas, auprès de ces jeunes, sur, par exemple, le dispositif Cap Jeune, qui leur permet d'avoir une petite somme pour pouvoir mener leur projet. Et donc, chaque année, on contribue comme ça à ce que 2-3 jeunes du quartier puissent développer un projet. Donc, du coup, sur les années précédentes, par exemple, il y a eu la réalisation d'un clip vidéo qui a pu être réalisé. Un autre a pu réaliser un stage sur une pratique artistique parce qu'il avait envie, effectivement, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir explorer ce domaine-là. Et donc, du coup, voilà, il y a tout ce travail-là qui est fait d'accompagnement individuel tout en menant des projets un peu collectifs qui concernent l'éducation à l'environnement urbain. Ce qui permet du coup pour les jeunes de se réapproprier aussi leur quartier, de le connaître, de le voir aussi de façon positive, en leur amenant, en faisant un pas de côté pour regarder différemment leur quartier, et puis aussi des fois de sortir et de pouvoir aller voir ailleurs aussi comment ça fonctionne et comment ça se déroule. Et donc, du coup, on a tout ce travail-là qui est mené sur le quartier de Croix d'Argent, Cité Gély et Petit Bar, par le biais de ce qu'on appelle ces clubs de ville.
Quand vous vous apercevez justement qu'un des jeunes ne vient pas, qu'il n'est pas forcément assidu, qu'il a peut-être des problèmes de comportement, quel est votre rôle dans ces cas-là? J'imagine que vous n'êtes pas simplement animateur d'un atelier.
Eh bien, il se passe qu'on fait un suivi dans le temps. C'est-à-dire qu'un des gros avantages que l'on a, c'est que l'association intervient maintenant depuis près de 10 ans sur le quartier. Et du coup, ça amène des questions aussi de liens intergénérationnels. C'est-à-dire que pour l'animatrice, elle a une connaissance, je dirais, presque intime des différentes familles. Et donc, certains jeunes qu'elle a pu avoir il y a une dizaine d'années et qui maintenant sont grands, elle a soit les frères et sœurs, ou soit même des fois parfois les enfants qui sont maintenant présents. Et donc du coup, ça permet aussi d'avoir un peu l'atmosphère ou la température du quartier qui soit présente. Et donc du coup, c'est effectivement pas uniquement une action d'animation pour faire de l'occupationnel, mais on est vraiment dans une dimension effectivement éducative et de redonner du sens et de redonner du lien effectivement sur le territoire.
Donc quand on parle des actions qui sont à l'intérieur des établissements, c'est des animations hebdomadaires. Comment ça fonctionne ça?
Alors, sur les animations que l'on fait avec les classes, on a deux modes d'intervention. On a ce qu'on appelle les projets et ce qu'on appelle les programmes. Les projets, c'est les classes de ville. Classe de ville, c'est-à-dire que ça va être un projet qui va être construit avec l'enseignant. Ça va représenter au moins 6 à 8 demi-journées d'intervention, que ce soit dans la classe ou que ce soit en sortie à l'extérieur, et qui vont s'inscrire sur l'ensemble de l'année et sur laquelle l'enseignant va pouvoir réexploiter les séquences qui vont être réalisées. Donc ça, c'est des programmes, c'est des projets qui se font effectivement sur l'année. Après, on a ce qu'on appelle les programmes, où là, ça va être une intervention qui va être une intervention ponctuelle, qui va avoir lieu une fois ou deux fois, vis-à-vis effectivement de l'école. Et après, bon, libre à l'enseignant d'exploiter ou de valoriser ces une ou deux interventions. Donc du coup, on a vraiment les deux modes d'intervention, soit une animation ponctuelle, ou soit une animation qui va s'inscrire dans la durée. Et après, ça c'est pour les actions en temps scolaire, et après pour le périscolaire, par exemple sur l'école Basile, il y a un atelier jardinage qui se fait tous les semaines. Donc voilà, après on a aussi des activités qui sont proposées et qui sont faites de manière régulière.
Alors Fabrice Cugny, on va donner d'autres exemples d'intervention de la PIEU dans les quartiers ici à Montpellier.
Alors, dans les exemples aussi sur nos interventions, pour rester toujours sur le côté quartier un peu difficile ou un peu sensible, il y a eu également aussi un travail qui a été fait, entre autres sur la thématique des déchets, mais là pas à destination des enfants, mais à destination des femmes. Et donc il y a eu un travail qui a été fait avec un groupe de femmes maghrébines pour comprendre qu'est-ce que c'est le recyclage, pourquoi il y a des poubelles avec différentes couleurs. Et là, l'idée, c'est de préparer en amont, avant que le tri n'arrive effectivement sur le quartier en question, de comprendre où vont partir nos déchets. Donc il y a eu aussi une visite qui a été faite du centre de tri. Donc du coup, ça a amené ces femmes à pouvoir sortir du quartier et d'aller découvrir le centre de tri. Et donc il y a aussi ce travail-là qui est mené de compréhension et de sensibilisation sur des choses qui parfois, en tant que simple habitant, nous dépassent un peu parce que du coup, on s'y est pas penché ou on n'a pas réfléchi ou on a une appréhension à sortir ou à aller ailleurs. Et on a aussi du coup sur ce travail-là qui est fait également par rapport au patrimoine. En particulier, on intervient aussi par rapport à tout ce qu'on appelle les primo-arrivants, donc ceux qui arrivent sur la ville de Montpellier, où on leur fait découvrir en partie le patrimoine et les lieux publics qui sont accessibles et sur lesquels on n'aurait forcément jamais l'idée d'y aller parce que on ne les connaît pas ou on ne sait pas qu'on a la possibilité d'y aller et que ça fait partie aussi de notre patrimoine, même si on vient simplement d'arriver sur la ville de Montpellier. Donc il y a aussi ce travail-là de reconnexion, quelles que soient nos identités et nos origines, le fait de dire qu'on partage collectivement un même territoire qui est la ville de Montpellier. Et donc même si on n'est pas présent depuis X générations et qu'on vient d'arriver et qu'on a d'autres origines, il n'empêche qu'on fait partie d'un ensemble, qu'on va partager. Et donc, du coup, là, dans ce travail-là, c'est vraiment une forme d'appropriation du patrimoine et une construction d'un patrimoine collectif. Donc, on intervient sur ces thèmes-là de patrimoine, mais on intervient aussi sur des domaines beaucoup plus sociaux et sportifs. Et donc, du coup, l'association intervient aussi par rapport à ces jeunes en difficulté pour les accompagner, par exemple, sur la mise en place d'un tournoi. Sauf que dans ce travail-là, le plus qu'on va amener, c'est de réfléchir, par exemple, OK, on va organiser le tournoi à tel endroit, et comment on va faire pour s'y déplacer ? Est-ce qu'on va utiliser les transports en commun ? Est-ce qu'on va s'y déplacer à pied ? Est-ce qu'on va utiliser le vélo pour y aller ? Et donc, du coup, le plus que l'on amène, c'est que par rapport à des activités qui ont déjà lieu aussi sur le quartier, c'est d'amener, je dirais, une touche environnementale, ou en tout cas une sensibilité environnementale, sur la manière dont on va réaliser ou dont on va faire telle ou telle activité. Des actions aussi qui ont été menées, ça a été des actions sur la réalisation l'année dernière avec des groupes de jeunes du quartier, de petites scénettes sur le thème de la discrimination raciale, la discrimination par rapport à l'emploi, sur la question aussi de la sexualité. Et donc du coup, il y a aussi tout ce travail géré social là, qui est mené dans le cadre des activités en utilisant d'autres médias, soit la vidéo, soit effectivement le théâtre, qui sont, ou le chant, même la danse, qui sont d'autres modes d'expression. Parce que finalement, ce qu'on aperçoit aussi, c'est que sur des quartiers sensibles, on a un potentiel en matière de créativité, mais qui ne trouve pas forcément les lieux pour pouvoir s'exprimer et puis se mettre en place. Donc c'est vrai que par rapport à des systèmes habituels, enfin, de diplôme, d'évaluation, de maîtrise de l'écriture ou même de la langue, on s'aperçoit qu'il y a d'autres formes qui permettent aux gens de trouver non seulement leur place, mais de donner aussi un petit peu plus de sens par rapport à leur vie ou par rapport à leur mal-être, entre guillemets, parce que simplement, on offre l'occasion pour eux de pouvoir s'exprimer, d'exprimer la manière dont ils ressentent aussi la vie dans leur quartier, les problématiques qui sont présentes. Et donc, du coup, voilà, on participe vraiment sur la dynamique locale. Et donc, on a une implication aussi de l'association par rapport au conseil consultatif, par rapport à tout ce qu'on appelle société civile ou démocratie de proximité. Et là aussi, c'est une autre manière aussi de sensibiliser les jeunes, d'être à leur écoute, de les impliquer éventuellement dans un projet qui va se faire avec le conseil consultatif. C'est les amener petit à petit aussi sur la notion de citoyenneté et de dire que, au même titre que toutes les autres personnes, ils sont citoyens de la cité.
Et bien voilà, c'était un entretien avec Fabrice Cuny, donc directeur de la Pieu. Pour avoir plus d'infos, si ce n'était pas suffisant, ce que vous avez entendu, et bien c'est sur internet www.apieum, avec un M, apieum, donc ça fait apieum.org. Alors avant de retrouver la compagnie de Idir qui sera présent au festival Arabesque, et bien on va écouter une autre artiste qui sera aussi présente pour ce festival ce week-end au Domendo, c'est Indizara.
Take me by the hand, beautiful tango, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the world, and baby, let me show you things. 'Cause time is running and we can lose. Baby, come and dance, we gonna make it through. cause we've got time. Yes, we've got time. Beautiful stranger, don't wanna know your name. Beautiful stranger, just wanna take your hand. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the place where the skin speaks the secret words in Spanish, where the night turns out the light of day for us to show some courage. So don't go if you wanna know. Don't go if you don't know. Don't go if you wanna know. Don't go, don't go, don't go. Beautiful stranger, take me by the hand, make me dance all night. I wanna take the chance. I love the way you move. Take it slow, makes me feel like I'm on a river flow. Cause we've got time, and yes, we've got time. Beautiful stranger, I wanna lose my mind. Beautiful stranger, in the depth of your arms. Beautiful stranger.
Nous écoutions Indizara qui sera donc présente en 5e rencontre des arts du monde arabe, autrement appelé Festival Arabesque. Alors tout le programme est sur internet www.festivalarabesque.fr sans doute. Voilà, on fait un blanc en radio.fr, c'est bien ça. Et donc, le festival a déjà débuté, mais le gros du festival, en tout cas, ce seront des concerts et puis des pièces de théâtre à partir de vendredi. Et donc, ce sera samedi que sur la scène de l'amphithéâtre d'eau, vous retrouverez Idir que l'on va maintenant écouter. Alors, je l'avais rencontré, c'était à Toulouse, c'était en 2006. Donc, c'est un petit souvenir pour moi et peut-être une découverte pour vous, pour cet artiste kabyle. Idir, de son vrai nom Hamid Chériet, est né en 1949 en Kabylie. Fils de berger, Idir décida d'étudier la géologie et était destiné à une carrière dans l'industrie pétrolière algérienne. Mais en 73, il démarre sa carrière par hasard à Radio Alger en remplaçant une chanteuse pour qui il avait composé une berceuse et interprète une chanson qui va devenir son premier succès, Avava Inouva. Empêché par son service militaire, ce n'est qu'en 1975 qu'il arrive en France pour débuter une carrière qui se poursuit encore. Il a fait très peu d'albums, 3, dont un avec des collaborations remarquées. Zebda, Maxime Le Forestier, Manu Chao ou encore Gnawa Diffusion faisaient partie des invités de l'album Identité. De l'identité, il en a été question lors de l'entretien qu'il nous a accordé avant un concert lors du festival La Méditerranée de Portée, comme son identité kabyle qu'il n'a jamais oubliée et pour laquelle il se bat toujours en s'opposant à un régime qui nie le particularisme, et puis de la France, un pays d'accueil qui, dit-il, lui a apporté l'amour. Un pays dans lequel il vit depuis plus de 30 ans et dont il aime parler, mais commençons par les premières années, les années algériennes. «
je n'ai pas choisi la France, on m'a demandé de venir. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, pendant que la troisième chanson que j'ai faite commençait à être un succès international, moi j'étais quelque part dans une caserne en Algérie. Et c'est là qu'à la fin j'ai reçu la visite de quelqu'un qui est venu de France pour me faire signer un contrat de 7 ans. Donc ce qui m'obligeait à venir tout simplement. Si cette personne n'était pas venue, si ça se trouve, je serais toujours là-bas.
J'ai lu aussi que vous étiez arrivé dans le métier un peu par hasard, un peu comme on s'enrhume. Et là, c'est précisément ce que vous racontez.
Oui, tu sais, en Kabylie, au temps de ma jeunesse, il n'y avait pas de lycée. On arrivait chez les Pères Blancs, on finissait nos études en troisième, c'est ça, c'est comme ici, non? C'était l'année du brevet, puis il fallait faire seconde, première terminale sur Alger. Donc, tous les gens de ma région venaient sur Alger pour continuer leurs études. Et comme on venait de Kabylie, on était interne. Le hasard a fait que mon affectation a été faite dans un lycée qui était en face d'une radio. Et donc, cette radio qu'on écoutait là-bas, des gens qu'on mythifiait dans nos têtes, je les voyais comme ça. Et comme on était interne, le week-end, on restait au lycée, on n'avait pas où aller, donc on prenait des guitares et il y a peut-être eu quelques notes qui ont intéressé les gens d'en face. Et donc on me demandait à faire des choses. Et puis donc je me suis essayé à faire des petites musiques pour des chanteurs, sans me prendre comme ça au jeu, hein, par plaisir. Et puis il s'est avéré que ça commençait à marchoter un peu, quoi. On faisait des petits tubes. Hein. Et là, une fois, j'avais préparé une berceuse pour une fille de chez nous. La fille tombe malade et donc j'ai été obligé de la remplacer au pied levé, comme ça. Donc c'est comme ça que j'ai mis le doigt dans un engrenage qui a changé complètement ma vie.
Qu'est-ce que ça fait finalement de quitter un pays? Vous n'êtes pas le seul parmi d'ailleurs les chanteurs, il y a Slimane Azem aussi qui a quitté il y a très très longtemps ce pays et qui a continué à chanter pour les Kabyles, les Algériens. Vous, quelle était votre position?
Des gens comme Slimane Azem étaient venus pour d'autres raisons. On appartient à une terre qui ne suffit pas à nourrir tous ses enfants, donc on est obligé de s'expatrier pour aller donc travailler. Et Slimane Azem fait partie de ceux-là, ainsi que pas mal d'autres chanteurs ici en France. Et évidemment, comme ils faisaient de la musique, ils racontaient leurs histoires. Et donc, ils chantaient des disques, ils faisaient des disques. Et il y avait des chansons qui nous parvenaient là-bas au bled. Et pendant 20 ou 30 ans, ils ont dominé la chanson kabyle. Moi, c'était autre chose. Moi, je suis un enfant de l'indépendance et même si je collais fortement à l'histoire de mon pays, en alignement, révolution a réussi, une espèce d'exemple pour tous les pays en voie de développement du tiers-monde. Je me sentais un peu brimé parce que ma culture maternelle, justement, n'était pas représentée. Alors, je ne comprenais pas. Un pouvoir qui défendait l'aspiration des peuples à leur liberté, leur souveraineté, voilà, qui me brimait, moi, un enfant du pays, quoi. Et donc, ce que tu appelles révolte, au départ, je pense que c'était un besoin de m'exprimer. Donc, fatalement, une révolte, bien sûr. Et donc, ce premier disque a été, disons, la formulation d'un cri. Mais de toute façon, si je n'avais pas chanté, tous les gens qui étaient dans mon cas, j'aurais participé autrement dans une association. Voilà, donc c'est vrai que ce besoin a donné naissance à ce disque, d'un art de dire. D'abord, premièrement, j'existe, avec ou sans vous, déjà. Et regardez ce que vous voulez brimer, ma culture, elle est belle. Et donc, je reprenais des choses traditionnelles, des il n'y a absolument aucune raison de l'occulter. Voilà. Au début, tu n'es en Kabylie, tu ne sais pas ce qui se passe à l'extérieur. Donc pour toi, la vie s'arrête au bord de ton village, la culture du monde s'arrête là. Après, tu vas sur Alger, tu rencontres une autre langue qui est l'arabe, que tu ne connais pas mais que tu apprends. Le français, même des gens qui parlent en hébreu, parce qu'il y avait encore des juifs à l'époque en Algérie, donc on envoyait au lycée. Et tu te dis, tiens, je ne suis pas seul. Et puis tu rencontres l'autre avec un grand A, l'essentiel étant de nous enrichir ensemble à partir de nos différences. Donc le petit kabyle que j'étais, point final, commençait à évoluer, puis à charrier avec lui toutes ses influences. Et après, tu arrives, disons logiquement, à cette notion de partage. Je me suis vite rendu compte qu'être kabyle, c'était mon état. Mais que ça ne suffisait pas. À partir du moment où je me définissais, je l'étais. Mais j'avais besoin de vivre d'autres choses. Et puis surtout voir que, bon, tout kabyle que j'étais, je pouvais peut-être amener un petit peu de choses aux autres. Ce n'est pas parce qu'un pouvoir ne te reconnaît pas que tu n'existes pas. Et puis moi, je démontrais aussi que je n'étais pas particulariste, que je ne me retournais pas sur moi-même et que je pouvais... partager des choses avec d'autres. Et donc ça montrait l'interactivité, ça montrait l'ouverture. Ce qui était particulier, par exemple, dans la culture berbère, c'est que c'était un mouvement particulariste au départ. Mais bien souvent, il revendiquait, bien sûr, son identité et sa langue, mais il revendiquait aussi les notions de démocratie. Peuplé de cheveux longs, de grands liés de musique, peuplé de lumière et peuplé de fous, la maison berbère, ma zalit debout. Une manif où il n'y a pas de banderole vive la démocratie, à bas l'intégrisme. Dans ces collines s'achèvent.
à l'heure, vous êtes défini comme le petit berbère. Alors, j'imagine le petit berbère qui arrive à Paris. Comment ça s'est passé avec la France?
La France, je la voyais à travers le prisme de nos immigrés à nous, qu'on appelle les émigrés là-bas. Et ils venaient dans de belles voitures avec des beaux habits. Et je me souviens qu'on bavait devant les jeans 501 que nous n'avions pas malheureusement à l'époque. Et on s'est dit qu'ils vivaient un paradis, c'était l'Eldorado. Et quand je suis venu ici, une de mes premières stupéfactions, c'est de voir qu'il n'en était rien. En fait, c'était par pudeur qu'il fallait qu'ils viennent montrer le meilleur visage possible. Parce qu'en arrivant ici, j'ai découvert l'exclusion, la cité transit, le racisme, et que bon, j'étais pas au bout de mes peines. Ça, c'était une des premières choses. Deuxième chose qui m'avait surpris comme ça, c'était la liberté de ton d'expression. Si je voyais des débats à la télé, je voyais des gens qui n'étaient pas d'accord, qui à la fin se serraient la main. Bon, pour moi, c'était un cirque parce que je viens d'un pays où tout est simple. Un seul peuple, un seul journal, un seul parti, et c'est bon. Hein, il n'y a pas un seul président. On pensait tous la même chose et puis c'est tout. Et donc, en arrivant ici, j'ai été un petit peu surpris. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à prendre mes marques. J'ai souffert les deux premières années parce que tu as des habitudes, tu as une autre manière de réagir, tu as une autre mentalité. Et donc, j'ai subi le syndrome de l'exilé, quoi. Et j'étais un peu triste, quoi. C'était pas une déprime, mais bon. Et puis, par la suite, je me suis habitué parce que je suis venu dans un pays qui m'a accueilli et que j'ai appris à aimer au fur et à mesure que j'y vivais. Et puis maintenant, j'y suis bien. Donc c'est un pays que j'aime et dont j'aime les enfants. Parce que j'arrive dans un pays étranger. Tu viens, tu vas de ta poche à payer ta place. Tu viens m'écouter chanter. À la fin, tu me dis « je t'aime ». Comment veux-tu réagir à ça? Cette espèce d'ouverture, de tolérance, de main tendue. Donc, énormément de choses m'ont touché. La France est le pays de l'intemporalité, c'est le pays du bien aussi, c'est le pays de la solidarité, qu'on le veuille ou non. Il ne faut pas voir simplement les choses noires, parce qu'à côté de ça, tu as une immense fresque, tu vois, de belles choses, et ça, je ne peux pas l'oublier. Mais en fait, moi, j'ai la chance d'avoir deux pays.
Alors, le fait que Idir fasse partie du paysage musical français, c'est ce que vous appelez l'amour?
Moi, en tout cas, j'ai senti un geste d'amour de la part de la France. Ça ne peut pas être un autre geste. Parce que quand tu viens écouter quelqu'un, tu t'intéresses à ce qu'il fait. Et il lui arrive même de verser des larmes parce que tu as dit des propos comme ci, comme ça, qui l'ont touché. Ça dépasse le cadre d'un artiste et d'un public. Il y a une forme de communion. Quand tu racontes ta propre histoire, tu te rends compte qu'au bout du compte, chacun y retrouve une tranche de la sienne. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, en dehors du fait. Moi, je suis heureux de faire un disque comme celui de La France des couleurs, où je ramène des gens du hip-hop, du R&B, alors que moi, bon, tu vois, c'est pas ma planète, hein. Ou des gens comme Noah, ou des gens comme ça, de chanter des choses où on dit La France des couleurs défendra les couleurs de la France, parce qu'il ne peut pas en être autrement. Nous sommes pas condamnés, mais nous sommes amenés à vivre de toute façon ensemble avec nos différences. Il n'y a pas d'autre choix possible, malheureusement pour les uns et heureusement pour les autres, hein, tu vois. Mais mathématiquement, socialement, politiquement, il ne peut pas en être autrement. Alors, faisons en sorte que ça se passe le mieux possible, quoi. Concevoir, comprendre quelqu'un de différent. Mais l'accepter dans la proximité de vivre ensemble, ce n'est pas toujours évident. Donc on ne peut même pas jeter la pierre à des gens qui, par ignorance, par manque de discernement, peuvent te dire que c'est malheureux parce que c'est comme ci, comme ça. Non. Il y a énormément de choses positives grâce à des gens comme eux, d'ailleurs des journalistes, des artistes, certains hommes politiques qui militent inlassablement, et ces anonymes aussi qui militent dans des actions et qui font ces petits coups de boutoir, qui font qu'à un moment, il y a un paysage qui change petit à petit. Ça d'abord, on n'a pas le droit de les laisser tomber, donc il faut être avec et il faut le reconnaître. Avant de voir la France raciste, celle de Le Pen, de Sarkozy, il y a avant tout celle de l'abbé Pierre, il y a celle des gens de bien. Même si l'Europe ne s'est pas encore faite aujourd'hui, l'Europe de la chanson, de l'émotion, s'est faite depuis longtemps, celle de la culture. Je sais que la culture est un fait déterminant dans le contact avec les gens, parce qu'elle transcende la notion de religion, de croyance, et parce que tout simplement, l'art est pour moi, comment te dire, c'est la conquête lente, hein, mais progressive du profane sur ce qui est dogmatique, sur ce qui est sacré. C'est le pouvoir de dire non à certaines choses. Galilée l'a dit, et il l'a payé cher, mais Galilée est un artiste dans son genre. C'est le fait de se battre. Et donc, moi, avec mes faibles moyens, j'essaye de donner un éclairage, de donner ce qui est positif là-dedans. Hein, parce qu'il faut être positif, c'est le moment ou jamais. Il y a trop de choses qui nous embêtent et on ne voit pas assez ces millions de gens qui sont prêts à s'écouter les uns les autres.
Idir prépare actuellement un nouvel album, La France des couleurs, où il se mêlera à plusieurs artistes venant de la scène hip-hop et R&B. Profitons de cet entretien avec Idir pour évoquer un autre grand de la musique kabyle, premier compagnon d'Idir. Il s'agit de Brahim Isri, qui s'est éteint en janvier 2005. Il accompagne notamment Idir dans la chanson Tizi Ouzou sur l'album Identité. C'était donc un entretien de 2006, on l'entend, et je n'étais pas plus réveillé qu'aujourd'hui, finalement. Donc, Idir sera en concert à Montpellier, ce sera ce week-end. Il sera bien juste après Asna El Becharia. Concert à 20h30, donc au Domaine d'eau. Et puis, je l'ai déjà dit, mais je le répète, la présence de Indizara, alors qui était déjà passé à Victoire 2 il y a quelques temps, mais si vous l'avez raté à cette occasion, eh bien... c'est le rattrapage ce dimanche à 20h30 également. Et puis vendredi soir, c'est Kamel El Arachi aussi, grande star, et Marcel Khalif. Il y a plein d'autres choses, notamment des ateliers calligraphie. Il y a aussi de la danse et puis des percussions. Il y a aussi les gnawa, la musique gnawa que vous allez pouvoir entendre si vous vous promenez dans le Domaine d'eau, en espérant qu'il fasse beau. Et toutes les informations, eh bien, c'est www.festivalarabesqueaupluriel.fr. Ainsi s'achève l'émission EPRA, émission hebdomadaire. Je remercie Manu à la technique et je vous retrouve la semaine prochaine.